Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, on va parler gastronomie avec Laurent Mariotte qui se passionne pour les plantes sauvages terrestres et maritimes. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez également Hélène Manarino, Eva Rock, Bertrand Chameron en deuxième heure. En première heure, Antoine Janton, Louise Bernard avec les audiences et avec un cataclysme, vous entendrez ça. Notre info média, un an après son lancement, retour sur le succès de la chaîne télé Cultivons-nous.tv avec son fondateur Édouard Bergeon, vous le connaissez. C'est lui qui a réalisé Au nom de la terre, le film avec Guillaume Canet en agriculteur. Et puis nos invités, Hervé Gattegno, le directeur de la rédaction de Paris Match et du JDD, le JDD, journal du dimanche, qui lance une nouveauté, le supplément politique, une newsletter politique, comme son nom l'indique, est très bien informé, dans quel but et surtout avec quelles infos, il nous dira. Enfin, le psy le plus célèbre de France, Gérard Miller, il co-signe avec sa fille Coralie, oui, coucou Oedipe, un documentaire, François Mitterrand, l'homme qui ne voulait pas rompre, ce sera sur Histoire TV dimanche, mais on s'y prend à l'avance. Il y aura en prime, évidemment, son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour.
Avec de la surprise, bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Une plainte déposée par l'un des dirigeants de France 3, Le Monde privé de publicité par Total et puis la nouvelle émission de Philippe Labro sur C8.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir?
Alors c'est pas tant une surprise qu'une confirmation et même peut-être...
Même une amélioration.
Si ça a déjà été vu, c'est-à-dire que... La suite de la série HPI avec Audrey Fleurot, qui, je vous le remets en contexte, avait fait quand même près de 10 millions de téléspectateurs la semaine dernière.
C'est
9 millions 340 pour être précis.
Je dis un mot pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est le score que font les matchs de foot.
Oui, c'était incroyable. C'était le deuxième meilleur score depuis RIS en 2006, donc vous voyez, ça remonte. Eh bien, TF1 a fait mieux hier soir, incroyable. 10 millions de téléspectateurs en moyenne sur les deux épisodes. Le premier épisode était à 10 500 000 téléspectateurs. C'est complètement phénoménal. 42,3% de part d'audience. Et sur la cible publicitaire, 47,9%. Je pense que les records vont pleuvoir. Je pense, d'ailleurs, on a vérifié, pardon, c'est le meilleur score pour une série. Et ça a donc battu RIS, Police Scientifique, les deux premiers. Je m'embrouille tellement, je n'en reviens pas.
Je souris, je repense.
Vraiment, c'est incroyable comme score et le fait que ça progresse.
Je repense à l'interview que vous avez faite d'Audrey Fleurot qui vous disait « J'espère que ça va bien marcher, qu'il y aura une saison 2. À mon avis, c'est bon là. »
Oui, elle m'avait dit «
Ça devrait pas trop poser de problème. »
Elle m'avait dit « J'ai les chocottes » parce qu'elle avait mis plein d'humour à elle dans cette série. Visiblement, ça paye. Forcément, ça se ressent sur les autres chaînes. On a des petits scores partout. France 3 est deuxième avec le film Potiche. 1 930 000 téléspectateurs, 7,9% de part d'audience. Ensuite, M6 avec le film Cendrillon. Très petit score aussi, 1 580 000 téléspectateurs, 6,6% de part d'audience. Et puis, je vous le donne quand même, catastrophe pour France 2, Bruxelles, ton univers impitoyable. La soirée sur l'Europe, 720 000 téléspectateurs, 3,4% de part d'audience seulement. TF1 fait 12 fois plus. France 2 est battue par TF1, France 3, M6, TMC, France 5, Arte et TF1 Série Film.
Culture Média.
Le journal des médias avec vous Antoine Janton, avec à la une une plainte déposée par un dirigeant du réseau régional de France 3.
Par le directeur de France 3 Centre Val-de-Loire, Jean-Jacques Bazier, plainte contre X pour des menaces reçues après que son nom a été donné en direct dans l'émission L'Heure des Pros sur CNews vendredi dernier. C'est Pascal Praud, le présentateur, qui l'avait cité à plusieurs reprises sans lui donner la parole. Il parlait alors avec ses invités d'un documentaire sur les fêtes commémorant Jeanne d'Arc chaque année à Orléans. Un film qu'avait plus ou moins commandé France 3, un film financé par la ville qui avait été finalement refusée par France 3. La chaîne l'avait jugée trop politisée.
Total annule une campagne de publicité dans le journal Le Monde.
Une mesure de rétorsion prise contre le quotidien après la publication mardi d'une enquête sur Total en Birmanie. Un long article dans lequel le géant pétrolier est accusé d'avoir partagé certains de ses revenus, ceux qui proviennent du gaz birman, avec des membres de la junte militaire au pouvoir à Naypyidaw et ce au détriment de l'État birman. C'est Le Monde qui a confirmé cette décision du groupe Total, groupe qui, de son côté, n'a fait aucun commentaire.
Et puis dans l'actualité des médias encore, le lancement ce week-end de la nouvelle émission de Philippe Labro.
L'essentiel chez Labro, c'est son titre, une émission qui a de nombreuses ressemblances avec la précédente. Langue de bois s'abstenir, même chaîne, C8, même jour, dimanche, même heure, vers 23h, même durée, une petite heure, et même principe. Une discussion entre Philippe Labro et quelques invités, seule différence, pas la moindre, le thème, fini les débats autour des sujets d'actualité, place maintenant à la culture, un sujet qui correspond au nouveau positionnement de la chaîne, décrit comme familial et feel good par ses dirigeants, ce qui convient d'ailleurs très bien à Philippe Labro.
La vie ne se résume pas simplement à l'économie, la politique, le social, les faits divers. Il y a aussi la culture. Et il a semblé à la chaîne, en plus, que ce n'était pas inutile de tourner une page. Après avoir fait 12 ans, Langue de Bois s'abstenir, on ne parlait que de politique. Compte tenu du fait que je suis aussi un cinéaste, un romancier, un parolier, et que par conséquent cet univers me passionne, de le proposer aux spectateurs de C8. Je réponds à la fameuse phrase de Paul Valéry, « J'ai beau faire, tout m'intéresse ».
Voilà, tout l'intérêt. C'est Philippe Labro, la musique, le cinéma, la littérature, la bande dessinée, même les jeux vidéo. Il sera aussi question d'art sur Internet. Tout cela abordé avec des invités, pas forcément très connus, car Philippe Labro dit vouloir mettre en avant des profils plus confidentiels.
Je ne tiens pas forcément à faire ce qu'on appelle la promo, c'est-à-dire le service après-vente. C'est-à-dire dès que quelqu'un sort un livre ou un film, il vient sur mon plateau. Pas du tout. S'il y a un livre ou un film ou un événement quelconque qui nous a intéressés, qui n'est pas forcément célèbre, mais qui, lui aussi, participe à la vie culturelle du pays, eh bien, on les invitera. J'ai obtenu qu'il y ait une caméra portative qui se balade pendant l'émission pour faire des gros plans, des détails, pour sortir un peu de la routine de l'émission plan-plan. On est quatre autour d'une table, plan américain, à toi, à moi, sans contre-champ. Là, on va essayer de donner un style et un ton à cette émission qui, en plus, et c'est très important pour moi, se terminera toujours par une note musicale.
Voilà, et après-demain, ce sera le violoniste David Peterlik qui jouera en fin d'émission. Au programme également, le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, la romancière Camille Goudot et le chirurgien Jean-Noël Fabiani-Salmon. L'essentiel chez Labro, c'est donc ce dimanche à 23h sur C8.
Une nouveauté sur Twitter.
Tip Jar en anglais, la boîte à pourboire en français, autrement dit une tirelire. Ouais. C'est un nouvel outil présenté hier. Il permettra de faire des dons à certains utilisateurs de Twitter, des experts, des journalistes, des ONG entre autres, ceux que le réseau social appelle les créateurs de contenu. Ce sont eux seulement qui pourront ajouter cette tirelire à leur profil. L'objectif de Twitter est ainsi de fidéliser les influenceurs.
Et puis Lucky Luke va avoir droit à une série.
Oui, Lucky Luke et les personnages qui gravitent autour de lui dans les bandes dessinées de Maurice, les Dalton, Rantanplan par exemple. Une série qui sera co-créée et réalisée par Michael Youn. Il sera également producteur artistique, mais on ne sait pas encore s'il jouera dans la série. Deux sociétés de production, Un pour tous production et Fédération Entertainment, se sont associées pour acheter les droits d'adaptation de la bande dessinée. Le projet n'en est qu'à ses tout débuts. Il n'y a pas encore de diffuseur, ni de date de diffusion, du moins officiellement.
Merci beaucoup Antoine Genton. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Et Louise Bernard également lundi, mais lundi de la semaine d'après.
Voilà.
Oui.
Bonnes vacances.
Bonne
on vous retrouve dans
soyez
une semaine.
Soyez sages en mon absence.
Évidemment, toujours. Dans un instant, notre info média du jour qui va s'intéresser à cultivons-nous.tv, plateforme consacrée à l'agriculture. Et ça marche. C'est devenu tendance. Nous en parlons avec Édouard Bergeon, le créateur de la plateforme. C'est le réalisateur du film avec Guillaume Canet, consacré justement à l'agriculture. A tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vondel.
C'est un sujet qui intéresse de plus en plus les Français, cela se voit dans les médias. L'agriculture fait de l'audience, bonne nouvelle. Fin février, 5 millions de téléspectateurs ont regardé le documentaire « Nous paysans ». C'était sur France 2 en prime time, une surprise. Et la semaine dernière, un chiffre lui aussi étonnant a été dévoilé. 60 000 abonnés pour une plateforme payante consacrée aux agriculteurs et à leur travail. Cultivons-nous.tv, 60 000 abonnés déjà, un an après le lancement. Bonjour Édouard Bergeon.
Bonjour.
C'est vous qui avez lancé cette plateforme parrainée par Guillaume Canet, que vous connaissez bien, car c'est Guillaume Canet qui tient le rôle principal dans votre film Au nom de la terre, sorti il y a 2 ans. Combien d'entrées avait fait le film ?
Plus de 2 millions d'entrées, ouais.
Là aussi,
dingue.
Une performance. Vous venez nous voir donc pour vous parler de ce succès. Celui de cultivons-nous.tv, 60 000 abonnés, c'est pas fini. La plateforme, évidemment, continue de se développer. On en parlera un petit peu plus tard. 60 000 abonnés en un an. Pour situer, Mediapart a mis 4 ans pour atteindre ce chiffre. Mediapart qui est considéré comme une référence dans le monde, ce qu'on appelle les pure players, les gens qui ne sont que sur Internet. Tout d'abord, le prix de l'abonnement.
4,99€, sans publicité, sans engagement. On peut s'en aller quand on veut et on reverse à chaque abonnement 1 euro à Solidarité Paysan. On fait du bien quand on s'abonne à cultivons-nous.tv.
4,99€, déjà 60 000. Qui sont vos abonnés ? D'où viennent-ils ?
Ils viennent de partout, ils ont tous les âges. C'est pas destiné qu'aux agriculteurs parce que cultivons-nous, on parle d'agriculture, mais on parle d'alimentation, d'environnement, de ruralité. Je retisse les liens entre tout ça. Je pense que pendant trop longtemps, on a parlé que d'agriculture ou que d'environnement à opposer les uns contre les autres. Mais s'il y a des écologistes, les premiers sont les agriculteurs. Ils travaillent entre le ciel et la terre, travaillent avec le vivant. Donc,
C'est un sujet, ça va vraiment être un sujet, parce que d'ici, il y a des écologistes et des agriculteurs, et on voit souvent la lutte entre les écolos et les agriculteurs.
Ouais, mais justement, il faut s'accompagner, il faut co-construire, il faut coexister. Sinon, si on est l'un contre l'autre, c'est compliqué. Donc, tout public, tous âges, On est sorti pendant le confinement l'an dernier, vous vous en souvenez, on était ensemble.
Ouais.
On a tous refait les courses, fait le marché, passé du temps ensemble, cuisiné. Et la valeur santé avec on est ce qu'on mange, bien manger, bien consommer, local, français, ben voilà, c'est cultivons-nous.
Vous dites que l'agriculture est devenue tendance, ça veut dire que c'est un phénomène de mode ?
J'ai envie de dire que ça devient pop même.
Ouais.
La photo,
pop, ouais.
Bah, la photo cool en fait, c'est celle qu'on fait dans les champs, dans un chemin. Regardez, je suis en week-end à la campagne. On dit ouais. À la campagne. C'est ça aujourd'hui sur Instagram qu'on aime voir. Et en tout cas, ouais, je pense que, en tout cas, ça fait du bien de reconsidérer celles et ceux qui sont nous nourrissent. Faut pas oublier que ça reste difficile. C'est du travail et que créer de la valeur quand on est agriculteur, ça reste difficile et beaucoup ne vivent pas encore comme il faut de leur travail.
Et je vais dire que vous savez de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas un bobo ou une pièce rapportée. Vous êtes fils et petit-fils d'agriculteurs. Et vous avez également traité tous ces sujets en tant que journaliste, notamment pour France Télévisions. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cultivons-nous.tv ?
Eh bien, le documentaire dont vous avez parlé, Nous Paysans, qui a fait 5 millions d'entrées, on va le récupérer à la fin du mois de mai sur notre plateforme. Et c'est important pour nous. C'est comme quand une chaîne d'histoire à l'Apocalypse, ben nous, on a Nous Paysans.
Ouais, c'est votre produit d'appel.
Ouais, et puis, on fait beaucoup de créations originales avec des journalistes ici et là en France, notamment Nicolas Fay, qui est en Haute-Vienne et qui raconte tout son environnement et qui vient de faire le portrait de Maurice, 97 ans, toujours agriculteur et un des pionniers de l'agriculture biologique et qui a un recul extraordinaire et qui est toujours en activité à 91 ans. Et ça marche très bien, par exemple. On va voir des grands chefs, on raconte vraiment tout ce qu'il y a du champ à l'assiette et qui touche la ruralité. Donc, c'est très, très varié.
Mais vous dites que ça s'adresse également aux professionnels. Il y a des tutos ou ça ne va pas jusque-là ?
Non, mais par contre, je fais de l'agrégation de chaînes d'agri-youtubeurs. C'est-à-dire que les agriculteurs ont pris leur téléphone il y a quelques années pour se raconter eux-mêmes, parce que je pense qu'ils avaient besoin de s'exprimer, qu'ils n'avaient pas de canal qui leur était dédié. Donc, j'ai certains qui sont très fidèles, comme un vigneron en Champagne, David Fèvre, Lucie qui fait des œufs en Vendée et qui se filme. Et on a besoin de communiquer. Ouest France a parlé de Lucie la semaine dernière, parce qu'elle est arrivée à 5000 abonnés, elle. Ils ont mis une photo d'elle avec ses poules dans un poulailler, alors qu'elle a des poules qui vont en plein air, mais avec le confinement, elles sont fermées. Elle s'est pris des tombereaux d'insultes parce qu'on ne peut pas avoir 15 000 poules. Il faudrait qu'elles soient toutes au champ. Mais dans ces cas-là, on fait comment Est-ce qu'on est prêt à payer aussi le prix des bons œufs? Enfin, c'est terrible, l'image, vous savez, hein, le pouvoir de l'image. Ouais. Ces poules, elles sortent en plein air, mais quand elles veulent pondre, elles rentrent à l'intérieur pour pondre dans leur nid. On va pas dire à la poule, pond dehors.
Ouais.
Ouais, mais en fait, c'est tout ça aussi, cultivons-nous. C'est faire de la pédagogie.
Ouais,
mais sans juger, sans incantation et sans dire, il a raison, elle a tort, le bio c'est bon ou c'est mieux. Oui, c'est bien. On a tous envie de vertu pour nous, notre santé, notre planète. Mais moi, je suis pas là pour dire il y a qu'à faucon. Je présente une boîte à outils. Cultivons-nous, c'est une boîte à outils et le consommateur, le citoyen est assez grand pour faire son choix.
Alors, parmi ce que vous proposez, il y a de grands entretiens que vous menez. Vous avez reçu entre autres le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, le désormais ex-PDG Danone, Emmanuel Faber, et puis des agriculteurs, des agricultrices, au parcours parfois étonnant.
Demain, une chef cuisinière, Nadia Samut, qui est la première chef étoilée sans gluten, sans lactose. Les femmes sont très actives dans ce milieu-là.
Justement, on avait choisi l'exemple d'une autre femme. Elle s'appelle Anne-Cécile Suzanne. Elle est éleveuse, directrice d'une coopérative dans l'Orne. Jeune femme diplômée de Sciences Po et d'Harvard.
C'est incroyable.
Je suis partie aux États-Unis dans le cadre de mon parcours en école de commerce. Donc j'ai étudié l'innovation et l'entrepreneuriat. Et puis finalement, mon père était tombé très malade. Il s'est retrouvé à l'hôpital à 100%. Et il n'y avait plus personne sur la ferme parce qu'il n'avait pas de salarié. Je suis fille unique. Et donc je me suis dit, Cécile, il faut que tu rentres à la ferme, il faut que tu t'occupes des animaux. Et donc je suis rentrée. Donc j'ai travaillé sur la ferme et mon père me donnait des instructions par téléphone. Il m'a appris à conduire le tracteur en coup de vent parce qu'il m'avait finalement jamais appris. Il n'avait jamais voulu que je conduise ce type d'engin. Donc là, par la force des choses, il m'a un petit peu enseigné tout ça. Et puis je m'y suis mise. Alors ça n'a pas été évident, hein. Je me suis retrouvée avec une tendinite au poignet gauche, puis au poignet droit. Ça a été une expérience qui m'a sans doute beaucoup forgée. Mais au final, je me suis prise au jeu et j'ai continué.
Ce dont il est question là, en l'occurrence, c'est de transmission, pas toujours évidente. Le métier d'agriculteur peut faire peur. Est-ce que son image est en train de changer ?
Bien sûr, et puis on le voit, vous passez l'extrait d'une femme qui a une trentaine d'années. Derrière, sur quatre agriculteurs, il y a une femme. Enfin, là, un quart, ce sont des femmes. Et bien sûr que c'est en train de changer, mais il y a encore du boulot. Et c'est par Cultivons-nous, justement, que moi, j'essaie de changer aussi l'image de celles et ceux qui nous nourrissent.
Et par aussi votre existence même. Vous-même, vous êtes fils et petit-fils d'agriculteurs, je l'ai dit. Et vous voulez vous y mettre aujourd'hui, vous avez passé les diplômes nécessaires.
Ouais, j'ai eu mon BPREA, donc mon brevet de responsable d'exploitation agricole. Donc, c'est un bac pro agricole pour pouvoir reprendre les terres de maman qui vient de prendre sa retraite dans la Vienne. Et puis, avec, j'ai d'autres projets par ailleurs avec mon associé. On a des restaurants et on vient de racheter une guinguette sur les bords de Loire dans la Nièvre où on a un maraîchage. Donc, on fait pousser nos légumes, on transforme nos légumes, les viandes qu'on achète localement. Et voilà, on essaie de faire ce qu'on dit, en fait, de raccourcir les circuits.
Et à la France Agricole, sur le site franceagricole.fr, vous avez révélé que votre rêve serait également de produire votre propre vin.
On aime tous boire un bon petit vin.
Oui, mais on n'a pas tous peut-être envie de le faire. Vous allez vraiment le faire? Vous allez acheter des vignes? Vous allez les cultiver?
Bah, quand j'aurai un peu plus de 40 ans, ouais, je ferai ça.
Vous avez quel âge?
38.
38, donc dans deux ans. À terme, vous avez vraiment l'intention de devenir agriculteur ou ça marche très très bien pour vous, vos activités, ou alors vous avez envie de devenir agriculteur cinéaste?
Je suis cinéaste, j'ai des racines agricoles, on fait à manger, on en parle... je parle de ce que je suis, d'où je parle de la terre, et j'ai la chance d'avoir acquis une liberté incroyable, ce que mon père n'avait pas quand il était dans sa ferme, où il travaillait comme un forçat, et où il pouvait crier fort, mais personne ne l'entendait.
J'ai mal posé ma question. Comment vous imaginez en 5 ans? Vous imaginez en train de vous réveiller et partir en salle de montage, ou alors partir sur vos champs pour aller sarcler?
Eh ben, toujours avec Guillaume Canet, normalement, l'année prochaine, on tourne... sûrement un prochain film sur le monde agricole en adaptant l'histoire de Paul François, qui est cet agriculteur qui a vaincu Monsanto suite à une intoxication d'un désherbant qui est aujourd'hui interdit. Donc je continue le cinéma avec Christophe Rossignon, qui est un producteur incroyable et qui m'a fait confiance et qui continue dans ce sillon-là, et en même temps un autre projet avec Emmanuel Courcol, mon co-auteur, qu'on écrit sur l'huile de palme entre Bornéo et la France, sur l'incidence de cette énergie verte qui n'est pas si verte que ça sur les populations locales et sur la terre, et puis culture. Cultivons-nous devrait grandir, et puis voilà, Cultivons-nous devient déjà un livre avec les arènes à la fin de l'année. On veut en faire un gros livre de 350 pages qui, je l'espère, pourra être sous le sapin de Noël de beaucoup de monde, où on brasse le champ, l'assiette, un cahier pratique. Tous les sujets de Cultivons-nous vont se trouver sur un espèce de gros MOOC. Mmh. Et on en parlera aussi dans un festival qu'on est en train de décliner à Tours, une sorte des assises du mieux manger. Ouais. Et à la rentrée de septembre-octobre, on verra avec le Covid. Hein.
Mais je sais pas comment vous allez faire. Parce que dans nos métiers, on bosse 10 heures par jour. On a une ferme, on bosse 10 heures par jour. On va faire des journées de 22 heures pour vous.
En fait, vous le savez, il faut être entouré, on ne fait rien quand on est tout seul.
On est bien d'accord. Vous restez avec nous, Edouard Bergeon. On n'a pas encore parlé de beaucoup de choses, et notamment sur le fait qu'il y a aussi des pépites historiques qu'on peut trouver sur votre chaîne cultivons-nous.tv, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Edouard Bergeon, réalisateur, mais pas seulement, qui lance cultivons-nous.tv. C'est une chaîne consacrée à l'agriculture, mais pas seulement, aussi à la nature. 4,99€ par mois. Il a lancé l'an passé déjà 60 000 abonnés, ce qui est vraiment une performance. Ce que je disais en préambule, mais juste pour situer, Mediapart, qui est considéré comme une référence, a mis 4 ans pour atteindre ce chiffre. Alors sur cultivons-nous.tv, vous proposez également des documentaires qui ont été tournés il y a quelques décennies, des trésors, comme vous dites, parmi eux. Une formidable série intitulée La Voix, réalisée dans les années 60-70 par Armand Chartier. C'est une sorte de striptease avant l'heure. On va suivre, là en l'occurrence, Lily, une comédienne qui est devenue éleveuse dans la Nièvre. Nous sommes en 75.
J'ai eu des moments de découragement où le soir, toute seule dans mon lit, je pleurais, mais je me raisonnais, puis je dis non, juste après tout, il faut que tu t'en sortes, tu sais que tu n'as que sur toi à compter. Et je me réveillais le matin, plus dynamique, je m'étais couchée et les choses allaient beaucoup mieux.
Ah, maintenant, je me sens de la Nièvre. Ça, c'est mon pays, maintenant, d'origine. J'aime tellement cette région, je suis tellement attachée à ces bêtes que je me sens maintenant absolument d'ici. Je ne voudrais pas quitter ce pays pour rien au monde.
Extrait très intéressant, parce qu'ambivalent, il y a à la fois l'espoir, la joie, les difficultés, le doute que peuvent éprouver les agriculteurs. On voit que ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque là, on était en 75 avec cette femme. Vous voulez donner quelle tonalité à cette plateforme? Optimiste, réaliste, les deux à la fois?
Les deux à la fois. Mais c'était important pour moi, dès que j'ai construit et monté Cultivons-nous, qui est une playlist, donc une page dédiée à l'histoire. Et j'ai eu la chance qu'on me fasse un cadeau. Pascale Delolle, qui est la fille d'Armand Chartier, qui était ingénieur agronome et patron de la Cinémathèque du ministère de l'Agriculture pendant plus d'une trentaine d'années, qui a réalisé lui-même plus d'une soixantaine de ses films que vous venez d'entendre. La Voix, c'est une série de 13 films féministes sur les femmes en milieu rural, de tous horizons, très modernes, très cinématographiques, avec la musique de François de Roubaix. Ouais. Et elle m'appelle, elle avait été touchée, Pascale, qui est monteuse, par mon film Au nom de la Terre, et c'est vrai que c'est le marqueur au nom de la terre qui est rentré dans les campagnes, qui a fait 2 millions d'entrées et qui a bougé les lignes à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau syndical, sur l'identité, sur la fierté même des agriculteurs. En fait, on a parlé d'eux, même par un sujet tabou qui est violent, qui est le suicide. On a parlé au moins d'eux et d'une manière, je crois, réaliste, parce que j'ai grandi dans une exploitation agricole. Et Pascal Delol m'appelle et me dit j'ai les 60 films de mon père, je suis l'ayant droit unique et j'aimerais vous les confier. Et tous les revenus qui sont générés par ces films-là sont reversé à Solidarité Paysan, justement. On ne fait pas d'argent sur ces trésors-là, mais qui sont une part de nous. Il y a des films sur le remembrement, sur la mécanisation de la betterave, sur une école de jeunes filles. Et j'adore, c'est mes petits trésors, et j'adore aller voir ces petites pépites. Et c'est très moderne, en fait.
Vous disiez, l'agriculture est en train de devenir tendance. Il y a une autre tendance qui croît de plus en plus, sont les véganes. Or, sur cultivons-nous.tv, il n'y a pas de documentaire sur les véganes. Pour quelle raison?
C'est la chaîne du vivant, Cultivons-nous. Donc, moi, je conçois pas qu'on puisse manger de la viande de labo. Pour moi, un steak, c'est un steak, c'est pas un steak végétal. Après, je respecte le fait que... Je pense qu'il faut qu'on mange moins de viande, qu'on en mange mieux, qu'on sache d'où elle vienne, qu'au maximum, elle soit française. Après, c'est pas quelque chose... Qui est des lanceurs d'alerte, qui est L214, qui est tout ça, c'est important. Après, quand on est dans le trop et dans des méthodes d'ayatollah, je trouve que ça me dérange. Donc, ça reste la chaîne du vivant. Et ça le restera, je crois.
Justement, comment vous choisissez vos sujets?
Avec mon ventre, quand ça se passe bien.
Dans... Comment ça?
Ben, je sais pas. Quoi.
C'est votre deuxième cerveau?
Ben, pas vous.
Dire comme tout le... Si, mais j'avais jamais entendu quelqu'un qui dit « je choisis mes sujets avec mon ventre ».
Ben, parlez-en à Laurent Mariotte, au Bon Vivant, il va vous dire comment ça se passe.
Ouais. Laurent Mariotte, juste un mot, qui sera là tout à l'heure dans l'émission à 10h. Il va nous parler des plantes.
Et ouais, ça me parle pas. Et je raconte toutes les agricultures, toutes les formes d'agriculture, que ça soit dans la bosse industrielle jusqu'à l'agriculture urbaine, plus bobo, bio, de conservation des sols, sans pesticides, avec pesticides. Le but, c'est qu'il y ait de la vertu, on a tous envie qu'on aille d'aller mieux, mais ça me dérange pas de raconter les réseaux de grande distribution ou la fabrique agro-industrielle. Faut pas oublier que 70% des gens achètent leurs aliments dans les supermarchés.
Ouais.
Donc, faut qu'ils bougent. Mais moi, je pense que pour détourner un avion, faut monter dans le cockpit. Donc, je pense que c'est intéressant de bouger avec eux. Et si à un moment donné, peut les faire bouger d'un, deux, trois degrés pour qu'ils changent leur méthode et rémunèrent les agriculteurs, bah, peut-être que le Titanic évitera de prendre l'iceberg si on le fait un petit peu bouger, quoi.
Justement, puisque vous parlez de grande distribution, on peut dire que le monde agricole est très disparate et divisé. Il y a des petits exploitants indépendants jusqu'aux grosses coopératives industrielles. On oppose également souvent, et peut-être un peu facilement, les gentils bio aux méchants céréaliers qui prennent les subventions de la PAC. Leur regard, forcément, n'est pas le même sur les problèmes et sur les solutions à apporter. Est-ce que ça aussi, c'est en train de changer?
Ouais, je crois. Et puis, le bio aujourd'hui, c'est devenu une marque. C'est pas si simple de faire du bio. Nous, on fait de l'agriculture de conservation des sols chez nous. Il y a des années, il pleut pas. On voudrait semer un couvert végétal pour remplacer la chimie. On peut pas, parce qu'il pleut pas. Faire changer les choses, c'est du temps long. On peut arrêter le glyphosate chez nous, mais alors faut arrêter, j'imagine, d'importer tout ce qui est mûri au glyphosate et qui vient d'Amérique du Sud ou d'Ukraine et qui est beaucoup moins cher. C'est jamais simple, en fait. Et puis, la chimie, je la défends pas, mais ça permet d'éviter de la fusariose, des champignons, des choses comme ça, et de garantir peut-être une sorte de sécurité alimentaire aussi. C'est comme si à l'hôpital, vous enleviez tout. Bah non, en fait. Donc c'est pas si simple. Chez nous, on a un maraîchage, justement. On fait du chou. Depuis 3 ans, pendant 3 ans, il y a eu l'altise, qui est un insecte qui a tout ravagé. Il n'y a pas de choux. Ben, on a un jardin qui est bio, un maraîchage bio, et on ne met pas de produits chimiques. Sauf qu'à un moment donné, on s'est dit, on aimerait bien avoir du chou tout l'hiver, quand même, c'est les légumes de l'hiver. Ben, on a juste utilisé de la chimie contre l'altise sur les choux, sur un petit bout d'un carré. Et on a eu des choux. Voilà, vous voyez le truc, c'est pas si simple, si simple. Donc moi j'ai envie de surtout défendre celles et ceux qui nous nourrissent, c'est déjà assez compliqué comme ça. Ma maman elle vient de prendre sa retraite, je vous l'ai dit, et elle a 600 balles de retraite, et à un moment donné je trouve ça pour le coup, c'est pas cool. Donc soyons un peu indulgents avec celles et ceux qui nous nourrissent.
Mais quand même, vous pourrez dire avec moi que la grande distribution n'est pas vraiment la meilleure amie des agriculteurs, et pourtant vous avez passé un partenariat avec Intermarché l'an dernier, de quelle forme et pour quelle raison?
Ben justement, ils ont créé une marque qui s'appelle Merci sur le lait, le miel, le jus de pomme pour rémunérer au juste prix les producteurs. Comme sur l'exemple de C'est qui le patron avec Nicolas Chaban ou en direct des éleveurs avec Fabrice Aigron. Et à un moment donné, c'est en ça que je vous dis qu'ils n'ont pas le choix, parce que les consommateurs choisissent ce qu'ils ont envie d'acheter et ce qu'ils n'ont plus envie d'acheter. Et à un moment donné, la grande distribution, bah, il voit que ça marche pas. Auchan est en train de perdre des parts. À un moment donné, un des nouveaux patrons d'Auchan m'appelle pour me dire « Ah, c'est intéressant, Cultivons-nous, comment on pourrait parler peut-être comment on pourrait parler aux agriculteurs ? Bah, faudrait peut-être déjà ramener vos équipes dans les fermes. Ah ouais, peut-être. Bah ok, ouais. Avec Cultivons-nous, on fait un truc. Bah ouais, peut-être, mais on va aller le filmer. Ouais, bah, si ça fight et qu'ils sont pas d'accord, on va falloir le montrer. Ok, on va le montrer. »
Alors qu'est-ce qui va se passer avec Auchan ?
Bah, je sais pas, on discute. Mais ouais. À un moment donné... Je veux pas faire de la pub d'Auchan, je veux juste montrer, faire du fact-checking en fait. C'est ce que fait Nicolas Chaban avec C'est qui le patron.
Ouais.
C'est qu'à un moment donné, nous consommateurs, on a envie de savoir. La grande distribution reste un des fossoyeurs de l'agriculture, clairement, j'ai pas peur de le dire. Mais moi je suis indépendant sur ma chaîne, j'ai pas de pub en fait. Donc à un moment donné, si je fais un partenariat avec Intermarché qui nous prend des abonnés, qui veut éduquer ses consommateurs, et qu'en même temps, j'ai un documentaire sur la grande distribution qui tape et défonce, qui raconte les marges arrière et tout, mais j'ai aucun problème à le mettre. En fait, je suis indépendant, et j'ai pas besoin d'eux pour vivre, en fait.
J'ai bien compris. On va retrouver également cultivonsnous.tv sur la plateforme Brutix, qui sera disponible sur la box Orange.
On y est déjà, ouais.
Vous êtes déjà sur Amazon Prime Vidéo, sera quand ? C'est maintenant ou c'est en septembre ?
Sûrement en septembre, ouais.
Quoi d'autre ? Vous le savez déjà ?
Bah Orange, Amazon, Brutix, ouais, avec Renaud Levanqui et Guillaume Lacroix qui m'ont fait... voilà, on a un partenariat ensemble, on parle d'eux, ils parlent de nous. Voilà, avec mon associé Antoine Robin, avec qui j'ai monté Cultivons-nous, parce qu'on est quand même deux, j'ai pas monté ça tout seul. C'est un journaliste qui est passé dans les réseaux, dans la pub et tout. Il sait comment aujourd'hui le digital fonctionne. Enfin, il sait. Il faut rester humble dans le digital parce qu'aujourd'hui on a 60 000 abonnés. Demain, on sait pas. C'est très très volatile.
Personne ne sait. Même les géants parfois se plantent.
Voilà. En tout cas, on a des convictions, et on est passionné et on essaie de faire grandir Cultivons-nous en l'arrosant régulièrement.
On me glisse, j'ai mis l'idée d'arroser. On me glisse que pour Orange, ce sera en juin les prochains projets. Vous l'avez dit, il y aura un livre et puis quoi d'autre ?
Un MOOC avec les arènes.
Et il n'y a pas des discussions en cours ou bientôt prochainement avec le ministère de l'Agriculture ?
Il y avait.
Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben non, mais j'aurais bien voulu que. Et le ministère aussi aurait voulu que Cultivons-nous serve de plateforme pédagogique aux 220 000 élèves de l'enseignement agricole. Il faut savoir que ce n'est pas l'éducation nationale. Ouais.
Pourquoi ça ne s'est pas fait ?
Il n'y avait pas d'argent. Donc.
Il n'y avait pas d'argent. Ben voilà.
Ben alors... Et pourtant, on ne demandait pas d'argent, il faut juste des frais techniques et tout. Mais, mais on a. Moi, je ne veux pas me.
À bon entendeur, salut !
On va se battre pour continuer, pour Cultivons-nous serve à éduquer. En fait, il faut créer des vocations.
Voilà. 4,99€ par mois, on va dire 5€ par mois, cultivons-nous.tv. Merci beaucoup, Edouard Bergeon, d'avoir
Merci,
été avec
Philippe.
Nous. C'est disponible sur Internet et sur BrutX et sur la box Orange le mois prochain, je le rappelle. Dans un instant, Hervé Gattegnaud avec nous, c'est le directeur général des rédactions du Journal du Dimanche. Ils viennent de lancer le supplément politique, une lettre numérique au journal. Très, très bien informé. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Hervé Gattegnaud.
Bonjour.
Vous êtes directeur des rédactions du Journal du Dimanche, le JDD, et de Paris Match, deux journaux cousins d'Europe 1, on appartient au même groupe, et deux monuments de la presse française. Des journaux comme tous les journaux qui ne cessent de se réinventer, et là votre actualité, c'est la newsletter politique, très bien informée, lancée par le JDD jeudi dernier, ça s'appelle le supplément politique. Avant qu'on en parle, un mot de votre scoop de dimanche dans le JDD, qui a retourné tous les états-majors. Le Premier ministre Jean Castex qui annonce un accord avec la droite dans le Sud pour les régionales, à savoir le retrait de la liste macroniste au profit de la candidature de Renaud Muselier. La droite, enfin LR, continue de se déchirer autour de cette annonce. Comment on obtient un scoop pareil ?
D'abord, en ayant une forme de prééminence sur l'actualité politique du week-end, le JDD a construit cela, c'est pas seulement grâce à nous. On a une position historique et on travaille beaucoup pour la conforter. Et donc, il y a des moments dans la vie politique où les choses se décantent en fin de semaine. Et donc là, il faut avoir les bons journalistes placés au bon endroit, ayant construit une relation de confiance avec les bonnes personnes. Et la caisse de résonance qu'offre le JDD dans ces circonstances-là fait que probablement le Premier ministre se dit que l'impact maximal de son annonce sera atteint si elle est dans le JDD.
Et donc Castex choisit le JDD, confidence obtenue par Sarah Payou. Votre annonce a provoqué un tel remous que l'info que vous avez publiée est devenue inexacte, mais j'avais écrit ce texte ce matin. très tôt, vers 6h30, et ça a encore changé depuis. J'allais dire que la secrétaire d'État, contrairement à ce que vous disiez, Sophie Cluzel, ne figurera pas sur la liste LR, ce que vous annonciez, ni aucun ministre, ni aucun député En Marche. Du coup, enfin, vous annonciez qu'elle y serait, finalement, elle n'y est pas. Et ce matin, on a appris un nouveau rebondissement. Sophie Cluzel annonce qu'elle va bien conduire une liste de la majorité présidentielle.
Je crois que rien de tout ça n'est encore réglé. Je réagis quand même, notre info de dimanche n'était pas du tout inexacte. Le Premier ministre annonçait les termes d'un accord qu'il avait conclu avec Renaud Muselier en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ensuite, vous avez vu ce qui s'est passé.
Non, mais ce qui est écrit dans le JDD, je ne vous le reproche pas. Ce qui est écrit, c'était que Sophie Cluzel serait sur la liste.
Et c'était les termes de l'accord qui était annoncé par Jean Castex. Depuis, bah, beaucoup de choses ont changé, mais rien ne dit que ça ne finira pas comme ça avait commencé. C'est de la bonne politique, c'est-à-dire c'est un bon feuilleton politique. Après, il y a des négociations de coulisses qui ne sont peut-être pas la meilleure politique dont on puisse rêver, ouais. Mais c'est vrai que pour un média qui s'occupe autant de politique que le journal du dimanche, suivre au plus près les épisodes de ce feuilleton, pour nous, c'est vraiment passionnant.
Et votre annonce continue de faire des vagues, puisque Christian Estrosi a quitté Les Républicains, idem pour Hubert Falco, le maire de Toulon. C'est fini ou c'est pas fini? Je pose la question à l'observateur de la politique que vous êtes.
Ah ben, ils ont quitté leur parti, ils n'ont pas quitté leur mandat, il reste des personnages
considérables. Non, j'ai mal posé la question, il y en aura d'autres?
Ah, il peut y en avoir d'autres. Il y a, de toute évidence, un mouvement de clarification qui est engagé au sein de la droite. Il y a plusieurs familles de la droite et on a le sentiment que ces familles de la droite sont de plus en plus inconciliables, voire irréconciliables, lorsqu'elles se sont fâchées.
Puisque vous parlez de clarification, on va dire quelque chose et je vais aller au sujet suivant qui amène votre venue ici. C'est la nouvelle newsletter que vous lancez et je vais spoiler ceci. Il y a un sondage qui dit que les Français trouvent que c'est absolument pas clair et que c'est de la tambouille politique. Ça leur plaît pas du tout ce genre d'accord.
Oui, en tout cas, ils désapprouvent cet accord. Chacun a ses motivations pour le désapprouver. Mais effectivement, il y a une forte majorité de Français, de citoyens et d'électeurs qui désapprouvent ce genre de combinaison. C'est pas complètement une surprise, mais ça aussi, c'est une forme de clarification.
Alors, le JDD a une place à part dans la presse française. Je vais citer l'Observatoire du journalisme. Seul quotidien national paraissant le dimanche, le JDD est une arme politique puissante. 150 000 exemplaires vendus revendiqués chaque semaine, 5 millions de visiteurs uniques sur son site, un peu plus de 6 millions de lecteurs en aggloméré, dont 300 000 classés comme influenceurs. Les scores ne peuvent être négligés par aucun candidat. On comprend le choix de Jean Castex de s'exprimer dans le JDD. Et j'en viens à votre actu principal. Vous venez de lancer le supplément politique, une newsletter politique, comme son nom l'indique, qui sort tous les jeudis à 6h45. Comment est conçu ce supplément politique? Qu'est-ce qu'on y trouve? Il y a 6 grandes rubriques, c'est bien ça?
Oui, alors c'est une sorte de petit journal politique. Je dis petit parce que la taille de ce journal fait qu'il est lisible en quelques minutes sur un smartphone ou sur une tablette. Donc c'est un produit innovant comme les journaux en font de plus en plus maintenant. C'est une arme stratégique pour nous permettre d'être présents sur l'actualité pendant la semaine, puisque comme vous l'avez dit, nous ne paraissons que le dimanche, mais désormais, nous avons des newsletters tous les jours, des mais newsletters oui. différentes, 6 newsletters au total, et donc nous avons une forme de présence quotidienne en plus de notre site, dont vous l'avez dit, les performances sont assez encourageantes et même très positives ces derniers temps. Donc ce supplément politique, c'est une lettre d'information et d'approfondissement politique. Ça s'adresse aux gens que la politique intéresse, voire passionne. Donc les gens qui savent déjà des choses, mais qui, avec nous, vont aller un peu plus loin dans l'analyse, un peu plus loin dans le décryptage, peu plus loin dans l'exploration des coulisses de l'actualité politique.
C'est ce que j'allais vous demander. On comprend bien une partie de vos motivations. C'est que 2021-2022 vont être des années électorales, les régionales, puis la présidentielle et les législatives. Mais quand on lance un support, on estime qu'il y a un manque. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le supplément politique qu'on ne trouve pas ailleurs?
On va y trouver des clés pour analyser, pour comprendre ce qui se passe dans le jeu politique au moment où ça se passe, sans être obligé de lire de très longs articles fastidieux et dans lesquels on trouve un parti pris partisan, politique, idéologique. Donc nous, on essaye vraiment de s'attacher au décryptage et au décryptage en temps réel. Donc là, en ce moment, le feuilleton sur lequel vous venez de m'interroger, ouais. mais aussi ce qui se passe dans l'actualité économique, les conséquences de la crise du Covid sur l'actualité politique, c'est ça qu'on y trouve. Donc de petits décryptages, très rapidement compréhensible, écrit d'une façon simple, avec beaucoup d'efficacité. Tout ça, c'est la marque de fabrique du JDD. Et ça, à l'heure actuelle, sur le marché, ça n'existe pas.
Le contenu de cette newsletter, on en parle juste après ça. On marque une courte pause. On accueille Hervé Gattegno, directeur général des rédactions du Journal du Dimanche. J'y arrive, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Hervé Gattegno, on parle du supplément politique, la newsletter politique lancée par le JDD, dont il est directeur général des rédactions. Je l'ai dit, il y a 6 grandes rubriques dans cette newsletter. Il y a un brief, ce sont des brèves, un grand angle avec des experts. Le visage d'un conseiller secret, je vais en parler, le sondage l'est évoqué. Une anti-sèche sur une question générale, et puis un feuilleton. Par exemple, là, il y a un portrait. Clémence Guettet, 30 ans seulement, je ne la connaissais pas. Qui est-elle ?
Oh ben c'est une de ses conseillères de l'ombre, ce qui est le sujet de cette rubrique, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas connus, qui ne sont pas à l'avant-scène de la vie politique, mais qui murmurent à l'oreille des politiques ou qui sont dans le...
En l'occurrence, elle murmure à l'oreille de Mélenchon.
Voilà, absolument. Et donc, nous essayons de prendre des personnages de second plan. Vous m'interrogiez sur ce qu'il y a d'inédit et d'original dans cette newsletter. C'est notamment le cas, c'est-à-dire de courts portraits, mais qui donnent du sens à l'actualité politique. Ces gens-là sont des gens très influents, mais même les lecteurs qui s'intéressent à la politique, le plus souvent, ne les connaissent pas.
Alors, je vais lire mes notes que j'ai recopiées dans votre site. Elle est secrétaire générale du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Clémence Guettet. Tête de liste en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'une alliance avec le NPA de Philippe Poutou. Il y a aussi Grand Angle, chaque semaine à tour de rôle, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne décryptent un enjeu de la vie politique, économique, sociale. Cette semaine, c'est une analyse santé mentale, combien ça coûte vraiment ? Là, on est loin de la politique politicienne.
Oui, de la politique politicienne, mais très près de la politique, c'est-à-dire les débats de fond, car nous voulons aussi explorer ça. Notre newsletter n'est pas destinée juste à aller chercher des petites phrases ou des petites scénettes de la vie politique.
Oui. Il y en a. C'est pas seulement, je vous interromps, c'est pas seulement la page 2 du Canard enchaîné.
Ah, pas du tout, pas du tout. Au contraire, ce ne sont pas des indiscrétions sur la vie politique. C'est vraiment, je vous l'ai dit, du décryptage et de l'approfondissement. Donc, cette rubrique particulièrement, nous avons fait appel à 2 grands cercles de réflexion sur la politique. L'un qui est plutôt de gauche, on le sait, la Fondation Jean Jaurès. L'autre qui se situe dans l'obédience libérale, l'Institut Montaigne. Et chacun d'entre eux a accepté, alternativement, de nous produire des décryptages et de l'approfondissement sur des grands sujets structurants du débat politique. Donc, par exemple, la santé mentale. Il y a eu, vous le savez, une actualité avec l'affaire Sarah Halimi qui renvoie à cela. On sait que c'est un débat de fond qui est traité par les politiques. Et donc, nous donnons des clés de compréhension de ce débat.
Vous donnez également l'agenda de la semaine. J'ai relevé une petite coquille. Dimanche, écrivez-vous François Hollande, Lionel Jospin, Bernard Cazeneuve et d'autres se réunissent au Creusot pour célébrer les 40 ans de l'accession au pouvoir de François Mitterrand le 9 mai 81.
Une grosse boulette.
Ouais, c'était le 10 mai, boulette. Franchement.
Vous voyez, je ne l'avais pas vu.
Bah voilà,
merci beaucoup.
Voilà, j'ai tout lu et j'ai repéré ça, je ne dis pas.
Vous savez, ça fait partie de cet exercice que nous faisons. Nous avons décidé, il y a quelques semaines seulement, de lancer cette newsletter. Ce n'est pas un vieux projet qui est dans les cartons. C'est une initiative que nous avons décidé de prendre parce qu'il nous a semblé que le moment était venu et que nous savons, par toutes les études et par tous les échos que nous avons, que nos lecteurs sont passionnés par la politique et que notre journal a une forme de prééminence sur cette actualité. Donc c'est vrai qu'il y a une petite forme encore de bricolage, voilà. Mais on va faire beaucoup mieux.
Ça allait être ma question, comment vous fabriquez ? Vous avez engagé des journalistes en plus, sont les mêmes, et puis on sait qu'on est les rédactions, le JDD fait partie du groupe Lagardère, il y a également Paris Match, il y a aussi Europe 1. Est-ce que vous vous appuyez sur ces 3 rédactions pour le supplément politique, pour le nourrir, ou c'est seulement interne JDD ?
Non, pour l'instant, c'est uniquement un produit de la rédaction du Journal du Dimanche. C'est un projet participatif, en quelque sorte. C'est la rédaction qui fait cela, de même que toutes les autres newsletters, nos 6 newsletters aujourd'hui au total, sont fabriquées entièrement par la rédaction du JDD. J'ai dit pour l'instant en commençant, non pas parce que ça veut dire que demain le JDD va mutualiser ses forces avec les autres rédactions, nos rédactions amies et cousines, comme vous l'avez dit, d'Europe 1 et de Match, mais plutôt parce que Paris Match va produire d'ici peu sa propre newsletter politique. C'est un petit scoop que je vous donne.
Merci.
Nous allons lancer également un produit qui sera évidemment très différent de celui du JDD, mais qui aura aussi sa fonction et son importance.
D'ici peu, c'est-à-dire, et il sortira quel jour?
Ça n'est pas encore complètement décidé. Vraisemblablement en fin de semaine et je dirais dans 2 mois.
Pourquoi le jeudi ? Parce que le dimanche vous sortez et le mercredi il y a le Canard enchaîné ?
Ah, pas du tout. Alors, en effet, par rapport à notre sortie, ça a une importance. Celle du Canard enchaîné, non, parce qu'il y a des journaux qui sortent tous les jours et de très bons. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de scander la semaine. Nous voulons avoir au JDD une présence toute la semaine. Le JDD est quasiment devenu un quotidien aujourd'hui grâce à l'audience de notre site internet et grâce à toutes nos newsletters qui rythment la semaine de l'actualité.
Comment vous définiriez le positionnement du JDD ? C'est un généraliste ou c'est un journal d'opinion ?
Ah, ce n'est certainement pas un journal d'opinion, c'est un journal grand public de qualité qui traite l'actualité la plus exigeante. Donc beaucoup de politique, beaucoup d'international, beaucoup d'économie, opinions et des grandes enquêtes.
Je ne vous le reproche pas, mais beaucoup de gouvernements. Ah bah, parce que j'ai pris toutes les unes de 2021, elles sont quasiment, y en a 6 consacrées à Macron, donc un tiers, 5 à ses ministres, 4 au Covid, seulement 2 à la politique étrangère et une seule consacrée à l'opposition, en l'occurrence Marine Le Pen, et encore pour démonter son programme avec une interview de Dupond-Moretti qui dit « Elle ne travaille pas et ne fait que mentir ».
Oui, mais bien entendu, mais vous savez, lorsqu'on fait la une sur une personnalité politique, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne dit que du bien d'elle.
J'ai bien compris.
Vous savez, dans la tradition du JDD, il y a beaucoup de grandes interviews et le gouvernement, pardon de le rappeler ainsi, mais le gouvernement, c'est celui qui prend les décisions qui concernent les Français sur la justice, sur la sécurité, sur l'école, sur la politique sociale. Donc, il est tout à fait normal et ça fait partie de l'ADN du JDD, d'aller poser aux gens qui décident les questions les plus exigeantes. Et ensuite, nous faisons la une sur le meilleur sujet du journal. Et c'est vrai que c'est souvent un sujet politique.
Un mot sur Paris Match. Vous avez suivi une petite tempête interne, Hervé Gattegnon, en mars dernier. La rédaction avait désavoué votre édito intitulé « Sarkozy, une étrange affaire » dans lequel vous avez qualifié de peine infamante la condamnation en première instance de Nicolas Sarkozy devant le tribunal judiciaire de Paris pour des faits de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire dite Bismuth. La SDJ de Paris Match vous a reproché, je les cite, de commenter une décision de justice en prenant parti et d'engager ainsi toute une rédaction profondément attachée à la liberté de la presse. S'adressant à un large public, on est dans notre sujet, Paris Match n'est pas un journal d'opinion, encore moins une officine partisane. Qu'avez-vous répondu à votre rédaction et les avez-vous rassurés ?
J'ai répondu à la rédaction que Paris Match n'était en effet pas un journal d'opinion, que pour autant il y a un éditorial chaque semaine et qu'un bon éditorial c'est une prise de position. On a parfaitement le droit en France dans la presse de commenter les décisions de justice. C'est encore le cas aujourd'hui avec la décision de libérer un détenu. Je rappelle qu'en France il y a énormément d'erreurs judiciaires, donc si la presse s'interdit de commenter les décisions de justice, qui pointera les erreurs judiciaires ? Et quant à la peine infamante de Nicolas Sarkozy, qui peut contester qu'une peine de prison ferme pour un ancien président de la République soit infamante ? Ce que disait mon éditorial, ce n'était pas tant qu'elle était infamante, c'est qu'elle constituait une innovation, puisque les juges eux-mêmes ont admis dans leur décision avoir condamné l'ancien président de la République sans preuve. J'ai dit à la rédaction, puisque c'était votre question, que je veillerai scrupuleusement à ce qu'on fasse bien la distinction dans Paris Match et aussi dans le JDD entre les articles d'information où il n'y a pas de point de vue et les éditoriaux où il y a un point de vue.
Merci beaucoup Hervé Gattegnaud. Je rappelle le supplément politique, newsletter politique lancé par le JDD. Il faut s'abonner. C'est les sommes modiques des prix
c'est
pratiqués par les autres.
C'est 6,90€ par mois pour l'abonnement complet avec le journal et toutes les newsletters.
Merci beaucoup. Culture Média continue. Le rappel des titres. Eva Rock pour le zapping du lendemain. Chamerois pour son écran de veille. Nos invités, les réalisateurs Gérard et Coralie Miller pour un documentaire inédit consacré à Mitterrand et le rôle qu'a joué l'amitié dans sa vie politique et publique. Et puis les indispensables, tout ça à tout de suite, Culture Média continue.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.